pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Il y a des êtres envers lesquels il faut réapprendre l'attention. Car actuellement, le confort de la modernité s'inverse. À force de ne plus faire attention au monde vivant, aux autres espèces, au milieu, aux dynamiques écologiques qui tissent tout le monde ensemble, on crée de toutes pièces un cosmos muet et absurde qui est très inconfortable à vivre à l'échelle existentielle, individuelle et collective. Mais surtout, on génère un réchauffement climatique et une crise de la biodiversité qui menace concrètement les conditions d'habitabilité de la Terre pour les humains. Cet extrait de « Manière d'être vivant » du philosophe Baptiste Morisot aurait pu être lu en ouverture du premier congrès des aires protégées d'Afrique qui se tient cette semaine à Kigali, au Rwanda. Nous vous emmènerons en RDC et en Guinée-Bissau, dans l'archipel des Bijagos, pour explorer des initiatives inspirantes. Nous irons aussi au nord-ouest du Congo-Brazzaville, dans le district de Kélé, où l'exploitation de l'or a fait des ravages. Puis nous verrons comment les animaux domestiques et sauvages doivent être mieux pris en compte dans les situations de catastrophe. C'est le combat du Fonds international pour la protection des animaux. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Pendant 6 jours, 2000 personnes sont donc réunies à Kigali, au Rwanda, pour le premier congrès des aires protégées d'Afrique. Venus de tout le continent, ils échangent sur les meilleures pratiques pour concilier le bien-être humain et celui des écosystèmes dont notre survie dépend. L'une des clés est d'impliquer les populations locales au lieu de les exclure. Bonjour Jean-Christophe Bokika.
Bonjour Madame Anne-Cécile.
Vous êtes le président de l'ONG Mboumontour qui se situe au nord de Kinshasa.
Effectivement, je suis le président de l'ONG Mboumontour. Nos activités sont basées dans le territoire de Bolobo, à plus ou moins 300 km au nord de Kinshasa. C'est la partie comprise entre le fleuve Congo et la rivière Kasaï, donc l'angle formé par ces deux cours d'eau.
Et vous êtes originaire de cet endroit. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans la protection ?
Je suis né au village, je suis né là-bas, je suis moi-même fils du chef coutumier, j'ai grandi au village, j'y ai fait mes études, sauf bien sûr l'université. Et donc, à 97, les populations locales, à la suite du phénomène de déforestation et de la raréfaction de certaines ressources animales, les populations ont décidé de créer une association pour faire face à ces fléaux, pour réduire la pression sur la forêt, sur la faune sauvage. Et donc, on a créé une association du nom de Mboumontour, qui est en fait le nom d'un cours d'eau local.
Oui, parce que depuis quelque temps, à cette époque-là, il y a des armes qui étaient arrivées, il y avait des traditions de pêche avec, et de chasse avec des poisons, c'est ce que vous évoquez.
Oui. Il y avait des armes automatiques. Les militaires venaient de Kinshasa pour chasser le gibier. Et des fois, ils ont tué, pouvaient tuer même une vingtaine de singes, et d'antilopes. Et même au niveau de la pêche, les gens utilisaient du poison pour avoir beaucoup de poissons. Mais la conséquence, c'est qu'on sacrifiait carrément les alevins. Et c'est pour cela que nous sommes intervenus pour trouver des alternatives à ce genre de pratiques.
Et alors, comment est-ce que vous avez commencer à travailler avec les populations, parce que c'est ça votre approche, hein, c'est de faire de la protection en écoutant les besoins et les envies des populations locales.
Et donc, c'est une initiative des populations locales elles-mêmes et on a débattu de certaines questions et on a dit qu'il faut désormais protéger la forêt, la faune, et c'est ainsi que nous avons eu l'idée de créer une ferme agro-pastorale pilote où nous allons élever la volaille, le bétail. On a commencé par l'élevage des vaches parce que à l'époque, il fallait quand même trouver une alternative à la chasse aux buffles. Dans la zone, est considéré comme chasseur celui qui a abattu au moins un buffle. Et donc nous nous sommes dit, il faut quand même élever, commencer par les vaches, qui est pratiquement l'équivalent de buffle. Était-ce la bonne approche? Bon, toujours est-il que la symbolique était très importante. Et malheureusement, comme on n'était pas spécialisé dans cet élevage. Il y a eu des problèmes d'ordre vétérinaire et on a perdu une dizaine de vaches comme ça. C'est alors que nous nous sommes dit qu'il faut qu'on se rabatte sur l'élevage qui est beaucoup plus simple à mener, en l'occurrence celui de la volaille et des petits ruminants, la chèvre, le mouton, ainsi de suite. Et ça marche très bien.
Du coup, la chasse a baissé ?
La chasse a baissé. Et en 2001, nous avons été alertés par une information préoccupante, le braconnage des bonobos. Le bonobo dans notre zone est considéré comme un humain. La légende dit qu'il habitait avec les hommes, mais parce qu'il n'arrivait pas à honorer sa dette, c'est là qu'il a préféré se réfugier dans la forêt pour ne pas devenir l'esclave de son créancier. Et depuis lors, nous, quand on grandissait, on nous disait toujours, il y a un cousin en forêt, il ne faut pas le considérer comme un gibier, on le considérait comme tel. À tel point que les gens sont tolérants à l'égard des bonobos. Même les ravages qu'ils causent aux plantations, parce que le bonobo raffole des bananes, des cannes à sucre, ainsi de suite. Mais ça se comprend, on s'est dit, mais c'est un cousin qui était dans le besoin et on ne les chasse pas pour autant. Mais dans la zone, il y a les sociétés d'élevage et d'exploitation forestière, qui au départ utilisaient la main-d'œuvre locale. Mais à la suite de la modicité du salaire, la main-d'œuvre locale s'est désengagée. C'est alors que ces sociétés ont fait recours aux gens du nord et du sud de notre zone. Ceux qui sont venus n'ont pas nécessairement le même tabou traditionnel, n'ont pas la même culture que nous. Ils ont commencé à abattre les bonobos. Et c'est alors qu'ils ont même intéressé les jeunes gens pour qu'ils se livrent à l'achat des bonobos et qu'on leur vende la viande. Mais les jeunes gens le faisaient en cachette parce qu'ils savent que c'est interdit par la coutume. Mais lorsque l'un d'eux a vendu la mèche, nous avons réuni les chefs coutumiers pour leur dire « Est-ce que vous savez ce qui se passe dans vos forêts ?» Voilà, il y a ça, 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 ça. Évidemment, ils étaient très écœurés. Mais ensemble, on a construit un discours. On a dit « Il va falloir qu'on fasse la sensibilisation. » Mais comme nous n'avions pas assez de moyens, nous n'avions que notre petite ferme là, nous avons décidé de créer un groupe folklorique que nous avons dénommé « Bonobo Folk ». Et nous avons dit, à travers les chansons de ce groupe folklorique, les gens prendront conscience parce que les chansons sont vite intériorisées. Et ça marchait. On a commencé à vanter les mérites des bonobos, ainsi que vous avez même suivi, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, il y a même une chanson là. Bonobo vivait au village et bonobo. À l'époque, nous avons été approchés par les organes de conservation pour y ériger un parc. Nous avons refusé cette approche-là. Pour nous, les bonobos devraient être protégés de la même manière qu'ils l'ont toujours été depuis des temps immémoriaux. C'est-à-dire, les bonobos vivent à côté des hommes. Il est question maintenant d'organiser le zonage participatif et de faire en sorte qu'il y ait une zone réservée aux bonobos et une autre réservée aux activités des hommes.
Alors aujourd'hui, vous avez cette zone de conservation. Comment est-ce que ça se passe avec les communautés locales ? Parce qu'il a fallu vraiment les former, les sensibiliser.
Oui, il y a cette zone dont 6 sont déjà reconnues. Il y a des organes qui sont prévus, des organes de gestion, des organes de contrôle, des organes de conciliation, ainsi de suite. Et nous sommes là en train de former les communautés locales pour la gestion de tous ces organes-là. Et ça semble marcher.
Et donc aujourd'hui, il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui travaillent pour votre ONG.
Oui. Et il y a également des gens qui bénéficient du métayage du petit bétail, de la volaille et même de lapins, ainsi de suite. Donc, ce sont également des bénéficiaires. Et en plus de cela, nous sommes en train de réhabiliter quelques infrastructures avec les moyens de bord. Et la dernière en date, c'est une maternité que nous sommes en train de construire.
Et vous avez aussi développé des écoles et puis des forêts nourricières. Alors, expliquez-nous ce concept.
La forêt, chez nous, est considérée comme une mère nourricière. Et même dans des forêts de conservation, nous, on permet aux gens de faire des prélèvements spécifiques, c'est-à-dire des prélèvements de champignons, de chenilles, mais en étroite harmonie avec les équipes de conservation, avec nos pisteurs qui sont sur le terrain.
Vous, votre bâton de pèlerin, j'ai envie de dire, c'est que la conservation n'est pas forcément une contrainte.
Voilà. Il ne faut pas contraindre les gens à faire quelque chose. Parce que regardez, madame, ce qui se passe en amont de la création de nos parcs. Ce sont des initiatives conçues soit par l'État, soit par les organismes internationaux, dans un bureau climatisé de Kinshasa, et on les impose aux communautés locales. On ne les consulte pas. On leur dit, nous avons découvert une importante diversité biologique et nous devons les protéger, nous devons protéger cette diversité biologique et vous demander de déguerpir. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent quitter. Et effectivement, ils ont quitté leur village, ils ont quitté leur lieu, ils ont quitté... Donc, on leur avait même promis des indemnités, des indemnisations qui ne sont pas venues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que les populations locales ne trouvent pas leur compte, ils reviennent à leur endroit habituel pour organiser le braconnage. Mais si l'initiative était déjà comprise en amont par les populations locales, on n'aurait pas assisté à ce genre de comportement. Je ne dis pas que notre initiative est parfaite, mais je crois que c'est la meilleure approche.
Merci beaucoup, Jean-Christophe Bokika.
Merci, madame.
Viva Cortador!
Viva!
Viva Cortador!
Viva!
Viva Trabajador!
Viva!
Viva Pellacé!
Viva!
Viva Raps!
Viva!
Viva Raps!
Viva!
Viva Caramão!
Viva!
Viva Caramão!
Viva!
Abaixo e Bagassi!
Abaixo!
Abaixo e Manhã!
Abaixo!
Abaixo e Adoro!
Abaixo!
O culto que eu não matei.
Viva Cortador!
Viva!
Viva Cortador!
Viva!
Viva Trabalhador!
Viva!
Viva Pellacé!
Viva!
Viva Raps!
Viva!
Viva Raps!
Viva!
Viva Caramão!
Viva!
Viva Caramão!
Viva!
Abaixo Magazine!
Abaixo!
Abaixo Magazine!
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous nous intéressons à des exemples inspirants de préservation à l'occasion du premier congrès d'air protégé d'Afrique qui se déroule cette semaine au Rwanda. Partons un peu plus à l'ouest à la rencontre d'une autre approche. Au large de la Guinée-Bissau se trouve l'archipel des Bijagos, classé réserve de biosphère par l'UNESCO. Il fait partie des plus beaux de la planète. Ses 88 îles abritent une biodiversité exceptionnelle, autour de laquelle les habitants ont construit leur culture et leurs traditions. Mais depuis quelques années, les sites sacrés et les animaux fétiches sont menacés par des expropriations, la surpêche et un tourisme irresponsable. Pour tenter de les protéger, le peuple Bijago des trois îles Rock a réussi à faire classer son territoire aire marine protégée communautaire. C'est le résultat de la détermination de l'ONG bissao-guinéenne Tiniguena avec l'appui de plusieurs partenaires comme l'Institut de la biodiversité des aires marines protégées et la Fédération internationale du banc d'Arguin. Igor Strauss est allé à la rencontre de ce peuple animiste et de ses paysages entre terre ferme et bateaux, mangroves et sable blanc.
On est au village d'Akoko, c'est un de 13 villages d'île Formosa dans le complexe des aires marines protégées communautaires Auroch. C'est un village Bijago, mais où on a le plus grand nombre de pêcheurs Bijago. C'est ce village ici. Ici, on va trouver la pêche plus professionnalisée. Parce que les Bijago ne sont pas les grands pêcheurs. Malgré qu'ils dépendent beaucoup de la ressource côtière et maritime, ils dépendent plus de la brousse, de la forêt, parce qu'ils ont perdu un peu la capacité de contrôler la mer avec différents facteurs d'histoire, le besoin de se cacher un peu dû au contact avec les colonnes, et plus part parce qu'ils avaient tellement de ressources qu'ils n'avaient pas besoin de sortir très loin pour aller à la pêche. Ils faisaient toute la pêche au niveau de la côte, donc ils ne sont pas spécialisés pour aller loin.
Et aujourd'hui, la ressource, elle en est où?
Une grande partie est déjà finie. On parle des grands poissons, pratiquement. Si on parle avec un pêcheur comme Jean Courrier, il va vous raconter un peu comment il pêchait peut-être à 30 ans. Où il pêchait de grands poissons, des poissons-ci, de grands requins-marteaux à côté de la côte. Mais maintenant, tous ces poissons sont partis, dû à la pression exercée sur la pêche dans tout l'archipel pour les pêcheurs qui sont venus de notre côte d'Afrique d'Ouest, pêcheurs sénégalais, de la Guinée, de Sierra Leone, Gagné, hein, tous ces gens pêchent dans cet espace.
On va discuter avec monsieur le pêcheur alors.
C'est une très bonne question.
John Correa. Non, c'est 1940.
Je m'appelle Jean Correa, je suis né en 1940. Je suis le deuxième homme en termes d'importance sur le plan spirituel dans ce village.
Alors vous êtes pêcheur, est-ce que vous pouvez me parler de la pêche déjà quand vous étiez jeune? Comment votre père vous a transmis tout son savoir pour devenir pêcheur? Et puis me faire une comparaison peut-être avec aujourd'hui.
Question de pêche. Pêche antique.
Avant, nous avons une pêche beaucoup plus traditionnelle. C'est-à-dire que nous avons des instruments comme le filet à épervier, nous avons des instruments comme la harpe, nous avons des instruments comme la nasse. Nous sélectionnons quelques espèces pour l'alimentation quotidienne et nous libérons les autres, nous rentrons. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est compliqué. Il y a une façon de faire la pêche qui ne nous satisfait pas. Et si personne ne nous aide à bloquer cela, demain, il n'y aura plus de poissons ici. Parce que des gens, ils viennent avec des très grands filets qui prennent des kilomètres et ils essaient de barrer tout le lit du fleuve avec ce filet-là. Et au moment du retrait de l'eau, tous les poissons restent bloqués. Et là, ils se servent, ils remplissent les cales et après, ils trient les poissons qu'ils veulent et le reste, ils les jettent comme ça, ils meurent. Et avec ça, ils sont en train de détruire toute la ressource. Il faudra que l'on se lève très tôt pour mettre fin à ce genre de pratique dans notre milieu.
Mais vous, les Bijagos, quel rapport vous entretenez avec la nature, en fait?
Ça, c'est une tradition que nous avons héritée de nos ancêtres. Ne jamais détruire, ne jamais gaspiller. Dans la nature également, sur la récolte des palmiers ou des palmistes, c'est exactement la même chose. On ne coupe pas n'importe quel régime. Mais celles qui répondent aux besoins de l'homme, c'est ce que nous coupons. Ça, nous l'avons hérité de nos ancêtres. Et c'est devenu maintenant quelque chose de culturel pour nous. Préserver, prendre juste le nécessaire. C'est ce que nous continuons et nous travaillons dans ce sens-là.
Alors aujourd'hui, malgré tous les efforts que vous avez faits pour entretenir et pour conserver cet environnement, force est de constater qu'il est menacé. Il a d'ailleurs fallu créer des aires marines protégées. Est-ce que ça va suffire, selon vous, à préserver l'environnement ou est-ce que vous êtes inquiet pour le futur?
Nous avons nos règles à nous, personnellement, de préservation. C'est-à-dire que nous avons nos fétiches que tout le monde, toute la communauté connaît et que les gens doivent respecter. Alors ce sont ces fétiches-là à peu près que nous avons implantés dans certaines zones que nous voulons protéger pour interdire à un certain moment de l'année que les gens viennent violer cet espace-là. Et pour l'instant, ça marche.
Obrigado.
Obrigado.
Merci beaucoup. Je vais interviewer maintenant votre fils parce qu'il est aussi pêcheur. On va s'entretenir avec votre fils. Merci beaucoup.
Baba Antônio Brandão, tenho 28 anos. Minha pesca.
Baba Brandão, j'ai 28 ans, je suis pêcheur.
Alors aujourd'hui, Ourock. Donc cet ensemble de trois îles où nous sommes, c'est une aire marine protégée communautaire. Qu'est-ce que ça vous a apporté, le fait que ce soit une aire marine protégée communautaire? Et qu'est-ce qu'une ONG comme Tiniguena vous apporte?
Bon, l'avantage que nous avons aire marine protégée est très grand. Pour la communauté.
Alors, avec cette aire marine protégée, l'avantage que nous avons, c'est qu'elle nous garde en communauté. Communauté de bien et même manière de penser. Et tout le monde est conscient de cela. Par exemple, dans les différentes communautés, chaque village a ses limites, son espace. C'est exactement la même chose dans la mer. Chaque village a un espace bien déterminé pour sa communauté. Et ces règles-là, tout le monde les connaît dans la société Bijagos. Si quelqu'un qui n'est pas de la communauté vient, il vient s'installer, il passe à travers la chefferie traditionnelle et c'est ce chef qui lui montre l'endroit, le pain de terre, là où il doit se mettre. Et on lui explique exactement ses devoirs et ses droits dans la société et ses limites également, selon justement ces règles Bijagos. Alors ceux qui sont chargés de surveiller ces règles-là, de l'application de ces règles-là, nous les appelons les kamabines. Les kamabines, ce sont les jeunes initiés, ceux qui sortent nouvellement du bois sacré, et ce sont ces gens-là qui sont obligés de faire ça. À supposer, par exemple, que nous ayons un pêcheur qui n'est pas de notre communauté, qui est installé dans le village et qui tue un animal protégé par la communauté, comme les tortues, comme les dauphins, comme l'hippopotame, etc. Là, ce sont ces jeunes initiés qui sont chargés d'appliquer la loi sur lui. On l'amène au fétiche, c'est une sorte de prison. Donc là, on va élever les murs, fermer entièrement ce fétiche-là, fermer la porte, l'individu rentre jusqu'à un certain temps dans ce truc-là. Et il n'y aura pas de lumière sinon qu'un feu de bois qui est allumé et il reste là jusqu'à ce que lui-même il se repentisse du tort qu'il a eu à commettre pour l'environnement et pour la communauté. Alors, nous, ces règles-là, jusqu'à présent, elles sont vives dans notre communauté et c'est comme ça que nous continuons à les préserver pour au moins délimiter. Ça nous sert de résolution dans nos conflits inter-villages, etc.
Mais aujourd'hui, vous êtes confronté à des énormes bateaux chinois qui viennent pêcher au large des côtes, qui s'approchent d'ailleurs de plus en plus des côtes, on les voit de certaines îles. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre cette pêche-là ?
C'est vrai que nous sommes impuissants face à ces gens-là, mais nous avons nos propres moyens personnels de le faire. Nous lançons des obstacles dans l'eau qui permettent aux poissons de se cacher ou de pouvoir s'échapper de ces genres de filets, etc. Alors, avec ces obstacles-là, quand les bateaux jettent le filet s'accroche à un rocher ou bien à un truc comme ça, et là, il ne peut plus continuer. Ce sont ces genres d'astuces que nous montons dans les aires marines protégées pour au moins sauver la vie du poisson. Mais nous savons que certains contrats sont signés au niveau de Bissau par les autorités là-bas qui ne tiennent pas compte de nos réalités. Nous sommes dans une entité qui est un pays, mais nous sommes obligés de nous protéger nous-mêmes face à justement ces gens qui sont forts et qui ont déjà l'appui du gouvernement.
Et vous, personnellement, vous pensez que vous êtes délaissé par l'État guinéen, justement ?
Bon, l'État facile.
Ici, nous ne profiterons aucun profit de ces accords qui sont signés ou bien de ces licences ou de ces contrats. Rien absolument. Parce que nous vivons dans l'isolement complet. Regardez, par exemple, pour se déplacer d'ici, aller vers la capitale, il n'y a rien. Mais si, par exemple, l'argent qui vient de ces contrats permet de garantir la stabilité du pays, nous sommes un maillon de la chaîne, ça va. Mais quant à tirer profit de ces accords, absolument rien. Il y a une absence totale de l'État ici. Il y a un agent de l'État qui est là, mais quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il nous apporte de concret dans la communauté? Rien, absolument. Nous le respectons parce que c'est une autorité. Point barre, il n'y a rien d'autre. Nous sommes obligés de nous prendre en charge nous-mêmes dans notre quotidien.
C'est pas du vent sur RFI et si vous voulez comprendre le monde dans lequel nous vivons, vous suivez la bonne émission. Préserver le vivant commence évidemment par ne pas le dégrader. Dans le nord-ouest du Congo-Brazzaville, dans le district de Kélé, c'est trop tard. En 2019, la société chinoise Agile, qui a exploité de l'or dans la région, a été mise en demeure pour désastre écologique par la ministre de l'Environnement, Arlette Soudan Nono. Agile devait dépolluer, reboiser et décontaminer tous les sites d'exploitation. 3 ans plus tard, Blanche Simona a courageusement enquêté pour voir si les engagements pris avaient été respectés.
Tchandjoko est une localité située à environ 35 km au nord de Kélé. Des gamins se baignent bruyamment dans un ruisseau qui coule à l'entrée de ce village de 400 habitants. Le bourg fait partie de l'axe Kélé-Ndjoukou où s'est produite une grande catastrophe environnementale suite à l'exploitation semi-industrielle de l'or alluvionnaire menée par la société Agile Congo entre 2017 et 2019. Victor Essangapela, le chef du village, nous reçoit dans une petite case en paille. Nous sommes venus réaliser un reportage sur l'opération de restauration des sites exploités par la société Agile Congo. Le sexagénaire nous regarde étonné avant d'annoncer qu'aucun travail de réhabilitation n'a lieu dans aucun site de leur localité. L'exploitant a détruit leur source d'eau et est à l'origine de divers maux auxquels fait face sa communauté.
Ils ont détruit la forêt, ils ont pollué l'eau, 27 ruisseaux qui ont été pollués, 27. Et il y a un petit ruisseau là, tout ce village prend l'eau là pour boire. Il y a quelques mètres de ce village là. Avant, l'eau était partout. Il y a des moustiques ici là. Pour dormir ici, il faudrait une moustiquaire. Et les moustiques n'étaient pas avant l'arrivée de la société. Mais quand la société est venue, quand ils ont épaulé, quand ils ont creusé les trous là, il y a trop de moustiques suite à cette activité-là.
En plus, le village est menacé de délocalisation, avance-t-il le regard triste.
La Gilles dit que le village est construit sur une mine d'or, mais ils veulent nous déloger ici, là. Donc nous ne sommes pas d'accord. Parce que nous avons nos ancêtres qui étaient ici, qui ne veulent pas que ce village soit délogé. Ils vont déloger ce village, c'est pour aller construire où ? On ne peut pas accepter.
Clément Mbélé est l'un des acteurs de la société civile qui fait partie de notre convoi. Il a toujours sillonné cette zone dans le cadre des activités liées à son organisation. Le président de l'association Protège-moi Environnement se souvient des richesses qui regorgeaient cette zone en produits forestiers et halieutiques.
Ici était une forêt primaire. Donc il y avait de gros bois d'essence comme les sapélis, les azobés, les moabis, hein, et d'autres encore. Ici, c'est devenu une plaine. Je vois une plaine, hein, c'est une petite plaine qui est là, hein, avec des marais au milieu. Alors que c'était un ruisseau qui passait par là, un ruisseau poissonneux. Mais il n'y a rien du tout, il n'y a aucun arbre ici. Qu'est-ce qui... Les palétuviers que je vois là, ce ne sont pas les arbres qui poussent dans ces lieux-là. Ça, c'est quand on a déjà brûlé un champ, ils remplacent. C'est comme ils l'ont fait, ils ont enlevé les vrais arbres et les palétuviers remplacent. Donc il n'y a pas eu une reforestation de cette partie.
Selon les populations riveraines, 150 ruisseaux sur 75 km, dont 36 sites de 10 villages, ont presque disparu. Pourtant, en la matière, la réglementation est claire. La réhabilitation de la surface des sols dont l'intégrité a été atteinte de manière substantielle de fait des travaux de recherche ou d'exploitation des mines sera assurée par le titulaire du titre minier. Tout comme Clément Mbélé, Farel soutient que la société Agile Congo, qui a été reconnue coupable de cette destruction de l'environnement et à qui le gouvernement avait exigé la réhabilitation des sites dégradés, ne les a jamais restaurés.
Nous respectons toujours l'environnement. Depuis que nous avons commencé à exploiter de l'or artisanalement, il n'y a pas eu d'impact. Et c'est comme ça que nos arrière-parents nous ont élevés. Les Chinois sont arrivés ici, nous ont chassés. Ce que vous voyez là, c'est ouvert par les Chinois. Et il y a l'État qui les a demandé de remplir les places sur lesquelles ils ont travaillé. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas refermé les trous. Ils remettent quand même le ruisseau en forme, puisqu'ils voient qu'en face d'eux, ils ont carrément de bêtes qui vivent dans la forêt, donc ils n'ont pas besoin de s'occuper de nous. Ils sont là, ils circulent tous les jours dans leurs véhicules, ils ont de l'or, ils n'ont rien à foutre avec nous. Voilà. Madame la ministre croit qu'ils ont fait le travail qu'elle les avait demandé de faire.
Mais au moins, l'herbe repousse quand même.
Ça repousse, mais c'est très dangereux, hein, maman. Ne voyez pas parce que vous voyez cette herbe-là repousser là. C'est grave, là. Si tu tombes là, c'est fini pour toi. C'est tellement profond. Voilà. Il y avait des bambous de Chine ici. Il y avait beaucoup de qualités d'arbres qui donnaient de beaux fruits ici. Et nous-mêmes, on le consommait. C'était vraiment de beaux fruits. Donc, jusqu'à la fin de nos jours ici, nous ne pourrons plus retrouver ces arbres-là. Parce que ce ne sont que des arbres qui ne poussent que dans les ruisseaux. Il y a du gasoil, il y a des... Si c'est de l'huile 40 ou combien là, je ne sais pas. C'est dedans. Donc, tout est empoisonné là. En bas aussi, il y a de la boue, une colle compacte. Quand tu rentres dedans, cette colle-là te bloque par les pieds et toi, tu ne peux plus remonter.
Nous voici devant le ruisseau Ndoumou. En amont, il dessert le village. Ici, en aval, il a complètement disparu et offre le même paysage que celui d'un Pélé. Ciel ouvert, le marécage pollué, tapissé d'herbes.
Ils ont tout détruit. Ils ont été détruits. Il n'y a plus rien. Pas de poisson. Avant, dans le temps, si vous venez ici, vous verrez que non, il y a des poissons eux-mêmes qui meurent, qui sortent d'eau et puis ils meurent eux-mêmes seuls. C'est même ici, je crois bien la semaine passée, j'étais là, je voulais pêcher du poisson. Je n'ai pas eu. J'ai déposé la motopompe là-bas pour chercher le poisson. Vraiment, je n'ai rien eu.
Mais au moins, vous chassez par ici?
Il n'y a plus moyen de chasser, maman. Ils ont créé leurs pistes partout, partout. Donc, ils ont fait du bruit ici. Je ne sais pas si à cette qualité de bruit-là, un gibier peut résister. Parce que tu sens comme des coups de tonnerre, boum, boum, boum. Je ne sais pas que si.
Fui loin.
Oui, très loin même. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ça devient difficile pour en trouver. Parce que ça devient carrément un grand boulot à faire. Tu peux faire même 5 jours, une semaine ici, tu ne trouves pas le gibier. Actuellement, nous vivons seulement avec des congélés. Tels que vous voyez beaucoup de jeunes assises dans le village parce qu'on ne sait plus quoi faire. Nous ne savons plus où aller. Qu'est-ce que nous allons devenir après ça? Ça, c'est rien que le début, mais nous ne savons pas encore le devant. Tout est détruit comme ça, ça fait pitié. Nous ne pouvons pas parler parce qu'il y a un trafic d'influence qui est là derrière nous. Si vous parlez, on arrive comme ça, on vous menotte et puis on vous enferme, on vous met dans un cachot, plus rien à faire.
Le lendemain, nous prenons la direction de la frontière Congo-Gabon vers le district de Mbomo, à près de 100 km de Kélé. Agile Congo poursuit là-bas ses activités depuis la levée de la mise en demeure qu'il avait frappée en 2019. C'est une zone très éloignée, explique le président de l'association pour la défense des intérêts des orpailleurs de Kélé, Emmanuel Aboro, notre guide du jour. La route est incertaine, surtout après la pluie. Des pentes dangereuses et des collines raides, il faut y ajouter un sol argileux. Après avoir affronté pente et colline, nous atteignons enfin la base vie de la société Agile Congo après 7 heures de route. Un gendarme en civil vient à notre rencontre, l'air surpris et mécontent. Un sujet chinois sur ses talents. Nous nous résignons à rentrer à Kélé sans avoir pu visiter le nouveau site d'exploitation de l'or. Le jour suivant, nous avons résolu de mettre le cap sur Nchiami. Le village se trouve à environ 45 km de Kélé et compte plus de 450 habitants. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par un jeune homme que nous appellerons Marx, car lui aussi a requis l'anonymat. Il nous conduit sur un ancien ruisseau à quelques encablures du village.
Je suis orpailleur artisanal licencié en histoire. Voilà, au village, à Itiami. Là où nos mamans fabriquaient les maniocs auparavant, avant que les Chinois ne viennent ici. Maintenant, dès que le Chinois est arrivé, il a exploité ici, là, vous voyez, il a ravagé partout. Et donc, ça devient une difficulté énorme à nos mamans. Donc, on ne peut plus fabriquer le manioc ici, là, tel que vous voyez. Et puis, ça devient un danger permanent pour nous et les populations d'Ntiami. Il y a l'eau, il y a la boue. On a perdu ce petit ruisseau. Il y avait du poisson, il y avait des silures, il y avait des fruitins. Mais actuellement, il n'y a plus rien.
À Brazzaville, la ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo nous reçoit cet après-midi dans le jardin d'un grand hôtel de la place pour une interview. Arlette Sudonono reconnaît la culpabilité de la société Agile. Mais contrairement aux riverains, victimes de cette catastrophe environnementale et aux ONG rencontrées sur le terrain, Arlette Sudonono soutient que la société Agile a déjà réhabilité les sites dégradés.
Je vous remercie déjà pour l'intérêt. Les questions qui portent sur les pollutions dues à l'extraction minière, je me souviens, c'était en 2019, nous avons mis cette société Agile en demeure en respectant un peu la loi congolaise qui, il faut le dire, lorsqu'un établissement de ce type, une mise en concession de ce type est faite, il y a l'obligation, comme partout ailleurs dans le monde, de faire ce qu'on appelle les études d'impact environnemental et social. Mais là, nous avons eu plusieurs infractions. Une société qui n'était pas en règle avec la loi, qui s'était installé au mépris de toute règle institutionnelle et réglementaire. C'était des faits extrêmement graves, donc il a fallu ramener l'autorité de l'État. Et c'est pour ça que le ministre que je suis est descendu sur le terrain pour rappeler tout simplement les règles. Et lorsqu'ils ne se sont pas exécutés, nous n'avons pas eu d'autre choix, tout simplement, que de procéder au travers de l'article 51 de la loi portant protection de l'environnement de 91, de mettre en demeure et de fermer pour un moment, de laisser le temps de se mettre en conformité. Mais les résultats, nous les avons eus et nous avons ce qui nous a permis de lever la mesure. Et même si vous venez du terrain, vous avez dû vous rendre compte que la nature a repris ses droits et que les eaux ne sont plus polluées. Parce que vous ne savez pas ce que c'était. Il faut voir les images. C'était impressionnant. C'était un état d'une eau colorée, verdâtre, avec une espèce d'odeur nauséabonde. Mais vous n'avez aucune idée de ce que c'était.
Lorsque nous lui rapportons que les populations affirment le contraire, les sources d'eau n'existent plus, les trous n'ont jamais été fermés et qu'aucune opération de reboisement n'est menée, Arlette Soudan-Nono persiste et signe.
J'ai du mal à vous laisser dire ça parce que je suis quand même assez pugnace et résiliente. Je me suis rendue, après la levée de cette mesure, sur le terrain pour faire le constat moi-même. Et j'ai bien vu ces sources d'eau couler et ces mêmes populations m'ont saluée. Donc les trous ont été fermés par Agile, il y a eu du matériel qui a été déplacé, il y a des sites qui ont été fermés, il y avait plus de 39 sites ouverts. Et donc je prendrai avec les pincettes l'affirmation qui est la vôtre comme ça.
Nous avons voulu en savoir un peu plus sur le suivi et le contrôle des titres miniers accordés aux exploitants auprès du ministère en charge des mines et de la géologie, mais nos multiples sollicitations auprès de ce département sont restées sans suite. Plus de 4 mois après notre passage dans le district de Kélé, la situation n'a guère évolué. Joint au téléphone, les responsables des ONG présentes dans la zone affirment qu'à ce jour, aucune réhabilitation des sites dégradés n'a été effectuée au grand désarroi des populations riveraines.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
C'est un sujet rarement évoqué, pourtant ses implications sont multiples. Les animaux, les hommes et la guerre, l'impact des conflits, c'est le titre du rapport que vient de publier le Fonds international pour la protection des animaux. Bonjour Céline Sisler, bienvenue.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le Fonds international pour la protection des animaux en quelques mots ?
Alors le Fonds international pour la protection des animaux est une ONG d'envergure internationale qui a pour objectif d'assurer une meilleure cohabitation entre les animaux et les hommes. Et disons même une cohabitation harmonieuse. Et pour ce faire, on va porter secours aux animaux en détresse, on va aussi protéger des populations d'espèces, et puis on va conserver leurs habitats.
Et quelle est l'ampleur de ce réseau ?
Alors, nous avons des bureaux dans 15 pays du monde. Notre siège est aux États-Unis, à Washington. Et nous pilotons des projets dans 40 pays du monde en collaboration avec des partenaires locaux. Et ce qui est aussi important de préciser pour AFO, c'est qu'on travaille toujours main dans la main avec les populations locales. Pour nous, c'est vraiment important qu'elles soient impliquées dès le début des projets que nous mettons en œuvre.
Alors avec le rapport que vous venez de publier sur les animaux, les hommes et la guerre, l'impact des conflits, on va justement essayer de comprendre en quoi la gestion des animaux est un problème dans ces situations de catastrophe. Alors ça peut sembler tout d'abord un peu décalé de s'intéresser aux animaux dans ce contexte de guerre où on pense évidemment davantage aux humains. En quoi c'est pertinent ?
Alors il est pertinent de s'intéresser aux animaux tout simplement parce que les animaux font partie de notre vie. Soit ils sont dans nos foyers pour les animaux de compagnie, soit ils assurent notre sécurité alimentaire, soit ils assurent la bonne santé des écosystèmes. Donc, quoi qu'il en soit, nous vivons avec ou à côté des animaux et donc nos destins sont liés.
La plupart du temps, c'est là où, si c'est anticipé, c'est quand même plus simple, les gens ne fuient pas le danger sans emmener leurs animaux pour des raisons soit affectives, soit économique, on pense au bétail notamment.
Oui, tout à fait. Les animaux, comme je le disais, font partie de notre vie et dans certains cas, les animaux sont un membre de la famille. Donc, on le voit pour le cas des animaux de compagnie en Ukraine. Il y a énormément d'Ukrainiens qui ont fui la guerre en emmenant avec eux leur animal de compagnie. On le voit aussi en Afrique, lorsqu'il y a des conflits, eh bien, les populations font tout ce qu'elles peuvent pour emmener le bétail avec elles, parce que le bétail est une source de revenus, c'est ce qui assure aussi leurs moyens de subsistance, et donc elles sont prêtes à parcourir des centaines de kilomètres avec leurs animaux. Donc c'est effectivement très important de s'intéresser aux animaux dans les conflits, parce que les populations qui sont victimes de ces conflits vont tout tenter pour les emmener avec elles.
Et si on ne s'y intéresse pas, parfois on y est obligé, puisque assez rapidement, il y a des rivalités qui peuvent apparaître sur les ressources naturelles dans un contexte de conflit entre les hommes et les animaux.
Il faut rappeler que la plupart des conflits, 80% d'entre eux, ont lieu dans des hotspots de biodiversité.
C'est-à-dire des lieux où il y a une biodiversité particulièrement
oui,
riche.
Oui, tout à fait. Et les populations qui sont obligées de fuir vont aller très souvent se réfugier dans les habitats où il y a ces populations animales sauvages. Et ce qui va renforcer, donc déjà créer un empiètement sur l'habitat naturel, l'habitat vital de ces espèces sauvages. Mais ce qui va aussi favoriser le braconnage, puisque les populations victimes des conflits vont devoir s'alimenter, vont aussi devoir s'abreuver. Donc on va avoir une rivalité pour l'accès aux ressources et on va donc aboutir à des conflits homme-faune sauvage, et c'est ça qui est véritablement dramatique. Et à titre d'exemple, on l'a vu en 2017 par exemple, eh bien on a les populations, on a 60 000 Rohingyas qui ont fui donc les pressions qu'ils subissaient de la part du gouvernement birman. Ils ont fui vers le sud-est du Bangladesh et se sont établis au carrefour de couloirs migratoires d'éléphants. Et évidemment, lorsque les éléphants ont entamé leur migration, ils se sont retrouvés face à une marée humaine, tout comme les Rohingyas se sont retrouvés face à des dizaines et des dizaines d'éléphants qui étaient sur leur trajectoire. Et donc, ça a créé un conflit, là aussi, entre la faune sauvage et les populations fuyant justement la pression birmane.
Alors, dans votre rapport, vous expliquez que d'après des chercheurs qui ont analysé l'évolution sur plusieurs décennies des populations d'animaux sauvages, notamment en Afrique, le principal indicateur prédictif de la survie ou de la disparition des espèces n'est pas le braconnage, la déforestation, ni même le changement climatique, ce sont les conflits humains.
Oui, tout à fait. Les conflits humains ont souvent lieu dans des zones où il y a une richesse de biodiversité importante et les animaux vont être ciblés, malheureusement, mais vont être victimes de braconnage parce que il va y avoir lorsqu'il y a un conflit, en fait, la gouvernance n'est plus assurée. Il y a une fragilisation de la gouvernance des pays en conflit ou des zones en conflit. Il y a moins de répression pour les actes malveillants à l'égard de la faune. Et par conséquent, eh bien, effectivement, les populations animales deviennent des victimes privilégiées de ces conflits. Et ça, on a pu le voir dans plusieurs exemples en fait, de conflits avec les éléphants. Les éléphants sont souvent braconnés pour leur ivoire, parce que eh bien, cet ivoire, une fois revendu, va permettre aux belligérants de financer à la fois les armes, de financer la solde des membres de leurs armées, va aussi permettre évidemment de renforcer ces équipes-là pour commettre d'autres actes d'incivilité ou d'autres guerres. Et ça, on l'a vu, on a pu le voir au Soudan, où justement, là, certaines milices n'hésitaient pas, pour entretenir les conflits au Soudan, au Darfour, à aller braconner des centaines d'éléphants, donc à parcourir de grandes distances pour aller chercher les éléphants là où ils se trouvaient, notamment en Afrique centrale, et les braconner par centaines pour pouvoir prélever leur ivoire et vendre cet ivoire à destination des pays d'Asie.
Alors, dans votre rapport, vous ne faites pas que lister les problématiques, vous suggérez différentes mesures à prendre. Alors, on ne peut pas toutes les lister, mais lesquelles sont prioritaires selon vous ?
Alors, je vais vous en citer trois qui nous semblent essentielles. La première, vraiment, consiste à modifier certaines conventions internationales pour responsabiliser les belligérants, les assaillants, afin qu'ils protègent les animaux, que cela tombe sous leur responsabilité puisqu'ils envahissent un pays et détruisent toute une biodiversité qui est nécessaire à la bonne santé humaine. Donc, il y a une mise en péril aussi de la capacité de résilience et de récupération de ces populations post-conflit. Le deuxième point, et cela part de l'exemple que nous vivons actuellement en Ukraine, c'est qu'il est fondamental de mettre en place des mesures qui vont faciliter l'évacuation des populations et des animaux. Là, nous avons eu la chance, par exemple, pour l'Ukraine, de voir l'Union européenne assouplir les mesures d'entrée des animaux de compagnie au sein de l'Union européenne, puisque normalement, il faut remplir un grand nombre de conditions quand vous venez d'un pays tiers pour rentrer au sein de l'Union européenne. Là, on a vu que les décisions pouvaient être prises rapidement pour permettre aux réfugiés de rentrer au sein de l'Union européenne avec leurs animaux de compagnie. Et un troisième point aussi qui est important, c'est qu'il faut savoir qu'en période de conflit, les actes de cruauté envers les animaux augmentent, notamment de la part des assaillants, parce que ça peut être un moyen de contrainte des populations humaines. On l'a vu en Ukraine fin mars, aux alentours de Kiev, les troupes russes n'ont pas hésité à brûler vifs des chevaux, justement pour faire pression sur les populations humaines qui vivaient à côté de ces haras, pour les faire fuir, pour éviter toute rébellion. Et donc, il nous semble très important de criminaliser en fait ces actes de cruauté qui sont menés intentionnellement pour atteindre le moral des populations attaquées.
Alors, quelles sont vos chances d'être entendues ? Parce que c'est difficile, on le voit bien avec les rapports qui se multiplient, de globalement parler de préservation de la biodiversité et d'en faire une priorité. Alors, encore plus en cas de conflit, est-ce que vous pensez que votre rapport peut avoir des conséquences positives ?
Alors oui, sinon nous ne l'aurions pas, pas écrit. Ce que nous voyons, c'est qu'évidemment la place de l'animal change dans les différentes sociétés à travers le monde. D'autre part, on voit bien aujourd'hui, il y a quand même une acceptation du fait que la bonne santé humaine, la bonne santé animale et la bonne santé des écosystèmes sont intrinsèquement liés. Donc nous avons bon espoir qu'à un moment, les décideurs politiques comprendront nos revendications et les appliqueront. De toute façon, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui qu'intégrer les animaux dans ces plans d'évacuation, les plans de préparation des populations aux catastrophes, les plans de restauration, parce qu'ils font partie de nos vies. Nous voyons des prémices d'amélioration, donc nous avons bon espoir.
Merci Céline Sisler, bienvenue, et votre rapport est évidemment disponible sur votre site ifao.org.
Merci beaucoup.
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.